Chapitre 16. Un message. Le jour suivant, au moment où Camilla, engagée dans une conversation sérieuse avec Mrs. Burlington, reconduisait cette dame hors de sa chambre, elle entendit le facteur de la poste prononcer le nom de Miss Harold, porté sur l'adresse d'une lettre dont il était chargé. Camilla prend la lettre, reconnaît l'écriture de Lionel et entre promptement dans le salon, où personne ne se trouvait alors, pour la décacheter et la lire, espérant y trouver, du moins sur les 200 livres, quelques mots qu'elle pourrait montrer à Sir Sedley et s'affranchir par là du désagrément de jouer le principal rôle dans cette affaire. Mais la lettre n'était qu'un badinage dans lequel son frère la qualifiait de « ma chère Lady Clarendel » et lui demandait sa faveur et sa protection. Ne sachant absolument que faire, Camilla rêva sur cette lettre jusqu'à ce que Mistress Alberry ouvrit la porte du salon. Alors, n'ayant pas le temps de la plier et craignant que Mistress Alberry n'en vît les premiers mots, elle la mit sur la table et la couvrit de son mouchoir qu'elle tenait à la main, espérant la dérober par là au regard de cette dame. « Ma chère amie, dit Mistress Alberry, je suis charmée de vous trouver seule. Pourriez-vous me donner quelques nouvelles de Mandelbert ?»« Non !» dit-elle avec effroi, dans la crainte qu'il ne lui fût arrivé quelque accident. « N'a-t-il pas, l'autre jour, pris congé de vous au bal ?»« Pris congé de moi ? Est-ce qu'il est allé quelque part ?»« Il a quitté Tunbridge. » À cette nouvelle, Camilla resta interdite. « Oui, continua Mistress Alberry, il est parti sans prendre la peine de vous demander si vous aviez à le charger de quelques lettres ou de quelques messages pour le Hampshire. » Camilla rougit profondément. Cette marque évidente de froideur la pénétra vivement. Ce départ était plus inexcusable que Mistress Alberry ne pouvait le soupçonner, car il savait que Camilla avait à lui parler. Et, quoiqu'elle ne se fût pas trouvée au rendez-vous, il ne s'était pas informé quelle en avait été la cause. « Voilà donc l'homme, dit Mistress Alberry, pour lequel vous voulez renoncer au genre humain. Voilà le caractère qui doit vous rendre insensible à tout autre attachement. » Camilla, dans ce moment, n'avait pas besoin qu'on lui suggérât ses réflexions. Sa dette à Sir Sedley, rejetée sur elle seule par les tourderies de Lionel, son impossibilité de satisfaire à cet engagement, la tournure du billet qu'elle avait reçu du baronnet et la cruelle indifférence d'Edgar, tout se réunissait pour lui faire désirer qu'il fût en son pouvoir de disposer de son cœur. Peu de minutes après, elle entendit la voix de Sir Sedley qui venait en chantant gaiement et qui, trouvant la porte de la rue ouverte, entra tout de suite dans le salon. Camilla se leva. Mistress Alberry voulait la retenir, mais elle ne put soutenir la rencontre du baronnet. Elle passa près de lui sans le saluer, sans répondre à ses civilités, et gagna promptement l'escalier. À peine commençait-elle à respirer qu'elle se rappela la lettre qu'elle avait laissée sur la table et que la nouvelle affligeante du départ d'Edgar lui avait fait complètement oublier. Frappée d'une terreur inexprimable que son mouchoir n'eût été dérangé, elle descendit promptement l'escalier et rentra dans le salon. Mais quel coup de foudre quand elle vit que le mouchoir, déplacé par le mouvement qu'elle avait fait en s'en allant, était sur le plancher, la lettre absolument à découvert, les yeux de Sir Sedley fixés sur l'écriture, avec l'air du plaisir et de l'impertinence, et Mistress Alberry riant de tout son cœur. Camilla, après s'être saisie de la lettre, allait s'en retourner. Mais Mistress Alberry se glissa hors du salon, et Sir Sedley, fermant la porte d'un air moitié railleur, moitié tendre, répétait d'après la lettre « Ma chère Lady Clarendel ». Camilla, dans la plus grande confusion, se cachait le visage en disant « « Oh, Lionel, frère extravagant, frère cruel !»« Je ne le crois ni extravagant ni cruel, » dit Sir Sedley en lui prenant la main. « Il est aimable, il a fait honneur à mon nom, et j'espère qu'à l'avenir, il voudra bien en user comme du sien. »« Oubliez, je vous en conjure, son étourderie !» dit Camilla en retirant sa main. « Et pardonnez à sa sœur de n'avoir pas tenu l'engagement qu'elle avait pris pour ce matin. » J'espère réparer bientôt cette faute, et j'espère. » Ici, elle ne sut qu'ajouter à ce qu'elle venait de dire, et elle essaya de quitter la chambre. Mais le baronet, la retenant doucement, lui dit « Ne vous en allez pas, incomparable Camilla, j'ai un million de choses à vous dire. Pourriez-vous ne pas m'écouter ?»« Non, répondit-elle en se dégageant, non, 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 je ne puis rien écouter. » « Vous n'enchantez donc les gens ?» lui dit-il avec l'air du reproche, que pour les désespérer. Camilla crut que cette phrase faisait allusion aux derniers événements et elle attendait en tremblant qu'il en appelât à sa justice. Mais Sir Sedley, qui était on ne peut pas plus loin de cette idée, reprit avec calme « Pourquoi toutes ces agitations dans la plus belle de toutes les créatures ? Peut-elle redouter un pauvre captif retenu dans ses chaînes par tant de charme et dont tous les efforts pour recouvrer sa liberté ne servent qu'à l'enchaîner davantage ?»« Souffrez que je m'en aille !» dit Camilla, impatientée de ce discours. « Je vous en prie, Sir Sedley !»« Adorable Camilla !» répondit-il en reculant toujours pour lui intercepter le passage. « Je suis prêt à me soumettre à ce que vous désirez. Mais quand pourrais-je vous revoir encore ?»« Jamais !» répondit-elle avec vivacité. « Veuillez bien seulement me laisser passer. »« Jamais, adorable Camilla, sera-ce aujourd'hui, ce soir, à midi ? Sera-ce... »« Non, non, non !» dit-elle, palpitant de honte et de crainte. « Je ne puis dire en quel temps. Je n'ai point d'idée déterminée. Je pense... » « Dites toujours, répondit-il, dussiez-vous m'affliger. Ce soir, donc ?» Il s'arrêta à ce mot, comme embarrassé de finir sa phrase. Mais bientôt, il ajouta « Adieu jusqu'à ce soir. Adieu !» Et il lui ouvrit la porte. Le triomphe éclatait dans ses yeux. Le contentement se peignait dans chacun de ses traits. Cependant, sa voix annonçait la contrainte. Il semblait qu'il n'osât exprimer ses sentiments, non qu'il eût quelque doute à l'égard de Camilla, mais par l'effet de sa propre indécision. Camilla, confuse et affligée, craignant de le laisser dans cette dangereuse illusion, voulut revenir sur ses pas. Elle redescendit, et d'une voix tremblante, « Sir Sedley, lui dit-elle, écoutez-moi, je vous en prie. »« Vous écoutez ? » s'écria-t-il en se jetant galamment à ses pieds. Oui, fût-ce sous les rayons brûlants du soleil, au clair de la lune, en quelque lieu que... Un rude coup de marteau à la porte de la rue, et en même temps le bruit de la sonnette, le forcèrent de se lever pour fermer la porte du salon. Mais il fut prévenu par l'entrée d'un homme qui criait de manière à se faire entendre dans toute la maison « Un exprès pour Miss Camilla Tyrold !» Camilla s'approcha, croyant qu'elle allait recevoir des nouvelles d'Edgar. Mais l'exprès lui mit une lettre, et sur l'adresse, elle reconnut l'écriture de Lavinia. La lettre était courte, mais affectueuse. Lavinia disait à Camilla qu'on venait de recevoir du continent des nouvelles qui, d'un moment à l'autre, faisaient attendre le retour de son cousin Lindmer à Clèves, que Sir Hugh avait, en conséquence, convoqué toute la famille pour le recevoir, qu'elle allait partir avec son père d'Etherington, où le rétablissement de la santé de son oncle leur avait permis de passer une semaine, et qu'on lui avait ordonné d'envoyer un exprès à Tunbridge pour avertir Camilla que la chaise de poste de Sir Hugh arriverait peu d'heures après au Mont-Plaisant, avec le concierge de Clèves pour la ramener, qu'il fallait qu'elle se trouvât prête à partir à son arrivée. Une foule de questions assaillirent Camilla dès qu'elle eut fini la lecture de la lettre. Au bruit qu'avait fait le messager, Mistress Albury et les Denel étaient descendus au salon. Elle montra la lettre, et la mettant entre les mains de Mistress Albury, elle s'évita un sentiment pénible de confusion, en se retirant sans rencontrer encore les yeux de Sir Sedley. Elle ne put cependant s'occuper des préparatifs de son voyage. Elle en fut distraite par le désir mêlé de crainte d'avoir, avant son départ, une explication avec le baronnet. Ce désir la fit descendre peu de temps après, encouragée par l'horreur d'une méprise qui pourrait avoir des suites fâcheuses. Elle ne trouva que Mistress Albury dans le salon, et s'arrêtant involontairement, elle demanda où était Sir Sedley. « Il est parti !» répondit Mistress Albury en riant de sa gravité. « Mais vous le verrez bientôt à Clèves, n'en doutez pas !»« Je suis donc perdue !» dit Camilla en fondant en larmes et en retournant vers sa chambre. Mistress Albury la suivit aussitôt et s'informa d'un air affectueux pourquoi elle pleurait. « Oh, Mistress Albury, secourez-moi, je vous en conjure, et par pitié, daignez m'épargner vos railleries. Je crains que Sir Sedley ne s'abuse étrangement sur mon compte. Détrompez-le, je vous en prie. » « Moi, ma chère, croyez-vous que si quelque heureuse fatalité travaille maintenant malgré vous à votre bonheur, J'irai comme votre mauvais génie contrarier ses opérations. J'écrirai donc, mais dans cette précipitation et dans ce désordre, je crains bien d'embrouiller plutôt que de développer ce que j'ai à dire. Écrivez, il n'y a rien de mieux qu'une correspondance entre deux parties qui cherchent à amener une affaire à bien. À ces mots, elle sortit en riant de la chambre de Camilla. Celle-ci, après avoir pris la plume, la rejeta en disant « Que pourrais-je lui marquer ? Il ne m'a point fait de déclaration positive, je ne puis donc pas lui adresser de refus direct. Quoique le manque cruel de toute considération de la part de mon frère m'ait rendu sa débitrice, je ne puis pas lui promettre de m'acquitter promptement, puisque l'étrange départ d'Edgar m'empêche de tenir ma parole. » Il était pourtant terrible de laisser Sœur Sedley dans l'erreur. Si, comme il était très possible, d'après la conduite et les manières du baronnet, il donnait à tout ce qui s'était passé la teinte d'une pure galanterie, elle aurait toujours la mortification de savoir qu'il l'avait crue prête à l'accepter pour époux. Dans le cas contraire, encouragé dans ses sentiments pour elle par la persuasion d'être payé de retour, il demanderait sérieusement sa main. Comment se justifierait-elle alors d'avoir paru accepter son hommage dans un autre temps? Et comment, dans un moment où elle lui était redevable, sans aucun moyen de s'acquitter, pourrait-elle repousser quelqu'un qui se trouvait appuyé par tant de motifs? Tandis qu'elle était plongée dans ses délibérations, Mrs. Mitin entra dans la chambre, faisant des lamentations sans fin sur ce qu'elle venait d'apprendre de Miss Denel que Camilla allait partir. Mais puisque vous vous en allez si vite, ma chère, vous devez avoir, dit-elle, 50 choses à faire. Permettez-moi de vous aider. Allons, où sont toutes vos affaires? Comment faut-il arranger vos paquets? Camilla, incapable de s'occuper de la moindre chose, accepta cette offre. Oh ciel, sans cela vos robes, elles ont, ma foi, bien fait leur service à Tunbridge. En voilà une abîmée de poudre et de poussière, vous ne pourrez jamais vous montrer à vos parents dans cet ajustement. Je pense que vous allez me la donner, j'ai précisément une pièce de mousseline pareille, je la raccommoderai si bien qu'il n'y paraîtra pas. Mais cela ne peut plus vous servir. » Camilla fut un peu surprise de cette demande, mais elle avait l'esprit occupé par beaucoup d'autres objets et la robe fut mise à part. « Quoi? Voilà donc tous vos fichus? Oh mon Dieu, ma chère Miss Harold, vous avez grand besoin d'en avoir d'autres. En voilà un que vous ne pouvez plus porter. Il faudrait y faire plus de reprises qu'il ne vaut. J'aurai à Clèves le temps de songer à tout cela quand je serai de retour, dit Camilla. Mais, ma chère, vous ne faites pas attention à l'idée que vous donnerez de vous à vos parents. Que penseront-ils de votre séjour à Tunbridge quand ils verront que vous avez laissé tout dépérir? Ils ne voudront plus vous permettre de revenir ici. Il vaut bien mieux qu'ils ne le voient pas. J'oserais parier qu'ils n'ont pas le compte de tout ce que vous avez apporté. » Dans un autre temps, Camilla aurait résisté à cette spoliation. Mais maintenant, elle était trop satisfaite d'être débarrassée du soin de faire son paquet pour prendre garde à ses bagatelles. Quand il fut fait et que Mrs. Mitin se fut bien payée de sa peine, « Voilà qui est fini, ma chère, » dit-elle à Camilla. « Que puis-je faire encore pour vous? Avez-vous payé Miss Ristilden et M. Doot et M. Trent ?» Ces questions tirèrent Camilla de sa rêverie. Elle n'avait pas songé une seule fois à ce qu'elle devait à la modiste, au cordonnier, ni au chapelier, qui lui avait fourni différents articles par l'entreprise de Miss Ristilden. Elle la remercia d'avoir bien voulu lui rappeler une chose si essentielle et dit qu'elle allait immédiatement payer leur mémoire. « Je vous épargnerai cette corvée, » dit Mrs. Mitin. « Ils ne le trouveront pas mauvais, car, vous les ayant recommandés, je ne suis pas fâchée qu'ils voient combien je suis leur amie. Ils peuvent, à leur tour, me rendre bien de petits services. Ainsi, j'irai les payer pour vous avec plaisir. Donnez-moi seulement de l'argent. » Camilla tira sa bourse, dans laquelle, d'après ce qu'elle avait payé à Sœur Sedley et les dépenses courantes, il ne restait plus que 15 shillings des 5 guinées qu'elle avait empruntées, quoiqu'elle se fût refusée tout ce qui ne lui avait pas paru indispensable. Que faire maintenant? Elle n'en savait rien. Quoiqu'elle n'eût commandé que des bagatelles, elle était bien sûre que le tout devait se monter à 4 ou 5 guinées. Elle avait itérativement refusé d'emprunter encore à Mistress Alberi, s'imaginant à chaque dépense qu'elle faisait que ce serait la dernière. Mais elle avait trop peu d'expérience pour savoir que, dans les cercles brillants et dans les lieux publics, les besoins d'argent sont sans bornes, que l'économie elle-même, qui est toujours locale, tient de la servitude de la mesquinerie dans ces sortes de positions et y perd le caractère distinctif que lui donne la vie privée. Ce n'était pourtant qu'au moment du départ qu'il fallait s'adresser à Mrs. Albery pour lui emprunter de l'argent, afin qu'elle n'en prît pas occasion de plaider de nouveau la cause de Sir Sedley. Telles étaient les pensées de Camilla lorsque Mrs. Mitin, qui, sans le moindre scrupule, avait fait l'inventaire de la bourse, dit « Je pense bien, ma chère, que ce n'est pas là tout votre trésor. » Camilla fut assez naïve pour dire qu'elle n'en avait pas davantage à Tunbridge. « Eh bien, ne vous inquiétez pas, ma chère, je vais les trouver tous et servir de caution pour vous jusqu'à ce que vous ayez de l'argent. » Camilla remercia très sincèrement Mrs. Mitin et revint à sa première opinion qu'elle était d'un excellent caractère et qu'elle avait bon cœur. Elle prit son adresse à Londres où elle devait bientôt retourner et lui promit qu'en peu de temps, elle lui enverrait de l'argent pour le distribuer à tous ses marchands qui allaient chaque hiver habiter aussi la capitale. Charmée de la confiance et de la commission, Mrs. Mitin prit congé et Camilla résolut d'employer le premier quartier de sa pension au paiement de ses dettes, se proposant de demander franchement à son oncle les 5 guinées qu'elle devait à Mrs. Albery. Tous ses arrangements pris, elle écrivit un adieu très tendre à Mrs. Burlington, la priant de lui donner de ses nouvelles à Essrington. Au moment où elle cachetait ce billet, Mrs. Albery, dont la voiture attendait à la porte, vint l'embrasser. Camilla, en lui faisant ses remerciements de toutes les bontés qu'elle en avait reçues, la pria de ne pas augmenter l'erreur de Sir Sedley si elle était absolument décidée à ne pas la détruire. « Je crois qu'on peut, en toute sûreté, répondit Mrs. Albery, l'abandonner à lui-même. Il est pourtant dans un aussi grand embarras que vous. Il répugne toujours au mariage, quoiqu'il ne s'attende à aucune difficulté de votre part. Je ne suis pas fâchée que vous soyez séparés jusqu'à ce que... Pardonnez-moi ma franchise, ma belle amie, jusqu'à ce que vous ayez mutuellement éclairci vos idées et que vous vous soyez dépouillés, lui de ses affectations et vous de votre simplicité. Votre situation n'est au fond qu'un jeu, car les deux êtres à qui vous avez affaire exigent une conduite diamétralement opposée. Un peu d'adresse et vous les soumettrez tous les deux. Éloignez celui qui est orgueilleux, flattez celui qui est vain, c'est les payer de leur monnaie. Mais ils n'en connaissent pas d'autres. L'orgueil, s'il n'est point humilié, devient méprisant et une vanité qu'on ne caresse point finit par l'indifférence. Camilla refusa d'employer l'artifice à l'égard de l'un ou de l'autre. Mais Mrs. Albery insista toujours pour que le champ restât à Sir Sedley, qui est déjà persuadé, dit-elle, que depuis quelque temps vous l'avez encouragé et que vous lui êtes maintenant absolument favorable. Camilla l'interrompit précipitamment. « Oh, Mrs. Albery, dit-elle, je ne puis supporter cette idée. N'ajoutez point à mes propres inquiétudes. » Alors elle l'embrassa, prit congé des Dennel et partit de Tunbridge pour se rendre à Clèves avec le concierge de Sir Hugh. Fin du tome 3.